sur mon passage. À tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de bosse, y avait dans le temps un beau grand chemin. C'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour, ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Moi qui avec lui sous les cieux pour poser qui balle. Chemin, tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Ils m'envoient me faire foutre, et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que se plémonte, les épis baisser le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Je chemin gris et blanc, sur le dos de qui que je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs. Car moi je veux de l'espace, où ce que mes allumettes elles sont, dans le fond de ma peintière, et je ferai bien reculer. Plus grande ma main.
C'est l'heure des manges de terre.
Un grand merci Alex pour ce générique des manges de terre en live dans le studio de Radio Libertaire. Oh, bah, je recommencerai bien tous les mois, moi, ce générique en live. Et je vais très très bientôt lui laisser la place. Voilà, voilà, Alex arrive et je lui laisse le micro.
Merci Monique et merci pour la technique. Effectivement, pour cette 20e année, ça fait 20 ans que les Mangeux de Terre existent. Donc l'émission, fallait la fêter dignement. Et bien voilà, c'est pour ça que le générique n'est pas celui d'habitude. Il a été réalisé en live. Donc voilà. La musique live sur Radio Libertaire, c'est pas tellement étonnant. Hein, ça arrive très souvent. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous chanter ce générique. Et nous allons donc commencer, comme d'habitude, comme promis chaque premier lundi du mois, l'émission Les Mangeux de Terre, une émission d'écologie sociale qui traite de sujets de d'actualité, bien sûr, en lien avec les problématiques écologiques. Et nous allons tout de suite commencer sur la question, évidemment, qui nous préoccupe en ce mois de janvier, début février, qui est celle de l'agriculture, bien sûr, avec un tour d'horizon assez large sur différentes problématiques. D'abord, nous allons commencer par le photovoltaïque. Je vais beaucoup m'appuyer sur des communiqués de la Confédération paysanne, qui fait un travail très important, en tout cas qui porte des valeurs que nous défendons sur cette radio, une agriculture paysanne donc. Et avec ce premier article donc sur le photovoltaïque, qui nous dit que la concertation publique donc a été engagée en janvier sur un décret concernant les installations photovoltaïques sur terres agricoles, naturelles et forestières, dont l'agrivoltaïsme, lancé fin décembre après des mois de tergiversation, s'est achevé le 16 janvier. La Confédération paysanne nous rappelle qu'elle refuse d'abandonner le combat primordial de défense du revenu paysan et de l'installation. C'est pourquoi, dès cet été, la Confédération paysanne avait refusé de poursuivre la discussion autour du décret consistant à finaliser techniquement la vente du secteur agricole aux grands énergéticiens, et la Confédération paysanne exigeant de fait l'interdiction des centrales photovoltaïques et de l'agrivoltaïsme sur toutes les terres agricoles, naturelles et forestières. Le couplage entre production solaire et production agricole est perçu comme un moyen pour développer les énergies renouvelables et apporter un complément de revenus aux agriculteurs. À première vue, donc, l'agrivoltaïsme est séduisant. En réalité, la production solaire sur des terres agricoles est incompatible avec la souveraineté alimentaire et l'agriculture paysanne. Les effets pervers de l'agrivoltaïsme sont multiples. Alors on peut citer l'atteinte à la vocation nourricière de la terre du fait de l'artificialisation et de la concurrence entre production énergétique et alimentaire, la précarisation des baux ruraux, la perte d'autonomie paysanne, la manne financière générant des conflits d'intérêts, la perte de la qualité de vie au travail, la dégradation des paysages, l'atteinte à la biodiversité, etc. Alors c'est une notion marketing, ce terme d'agrivoltaïsme, qui vise à légitimer un opportunisme foncier et financier dans un contexte économique difficile pour le monde paysan. A contrario, il faut un plan de développement des énergies renouvelables qui se concentre sur les zones artificialisées et les toitures. C'est effectivement ce que logiquement on devrait pouvoir développer. Donc en particulier, les gisements photovoltaïques sur les toitures et les espaces artificialisés sont largement suffisants pour répondre à la demande d'électricité renouvelable, comme l'a démontré l'ADEME. Alors l'ADEME a dit, dans ses rapports de 2018 et 2019, a évalué les gisements de photovoltaïque à plus de 360 gigawatts sur les toitures, près de 50 gigawatts sur les friches industrielles et 4 gigawatts sur les parkings. La mobilisation de ce potentiel permettrait donc de dépasser largement les objectifs de production d'énergie photovoltaïque fixés par la Première ministre dans son plan France Nation Verte de juin 2023, qui est donc d'atteindre 140 gigawatts à l'horizon de 2050. Et donc on pourrait faire tout ça sans toucher aux terres agricoles et forestières, et la Confédération paysanne se réserve le droit d'actionner tous les moyens à sa disposition afin de protéger la souveraineté alimentaire et les terres agricoles, naturelles et forestières. Ça méritait d'être précisé. Alors ensuite, bien sûr, on va traiter du sujet d'actualité, à savoir ce grand mouvement qui s'est levé à partir de la mi-janvier dans le monde paysan. Et pour cela, on va s'appuyer d'abord sur le communiqué de la Confédération paysanne, qui nous dit qu'elle appelle à se mobiliser donc, pour des paysannes et des paysans nombreux et rémunérés. Et ce comité national, son comité national, réuni donc le 24 janvier, a affirmé sa solidarité, sa pleine solidarité avec les mouvements d'agricultrices et d'agriculteurs en France, avec un constat partagé. La colère exprimée est légitime, tant le problème de la rémunération du travail paysan est profond. Il y a 25 ans, la Confédération paysanne dénonçait déjà les conséquences du libéralisme du Larzac à Seattle. Par contre, sur les solutions proposées, l'agriculture française tourne en rond depuis des décennies derrière la sacro-sainte « compétitivité », entre guillemets, chère à l'agro-business et au marché mondialisé. Résultat, un plan de licenciement massif dramatique qui tue nos campagnes. La Confédération paysanne nationale a aujourd'hui, donc c'était le 24 janvier, pris la décision d'appeler l'ensemble des structures départementales à exprimer leur solidarité au mouvement, à se mobiliser et à apporter des solutions durables de sortie de crise et de système. Les mobilisations prenant diverses formes en fonction du contexte local, le mot d'ordre commun de la Confédération paysanne étant clair, un revenu digne pour tous les paysans et paysannes et rompre avec le libre-échange. Alors que plusieurs confédérations paysannes départementales étaient déjà mobilisées sur le terrain, la décision du comité national de la Confédération paysanne va amplifier cette mobilisation. Plusieurs dizaines de départements ont ainsi déjà prévu de se mobiliser pour obtenir des solutions concrètes pour tous les paysans. Et dès le 25 janvier, la Confédération paysanne du Rhône, de Loire-Atlantique, du Var ont manifesté dans les Pyrénées-Orientales le surlendemain et également le dernier week-end de janvier en Bretagne et dans le Calvados. La Confédération paysanne souhaite collectivement apporter de véritables solutions de fond au malaise agricole en demandant d'urgence une loi interdisant tout prix agricole en dessous des prix de revient et la fin immédiate des négociations d'accords de libre-échange. Les gouvernements successifs et la FNSEA ont mené conjointement l'agriculture dans l'impasse actuelle d'un système économique ultralibéral, inéquitable et destructeur. Nous alerterons nos collègues sur le mirage de la suppression des normes et celui du complément de revenus par la production d'énergie. Certes, une simplification administrative est nécessaire car beaucoup de procédures administratives et de normes sanitaires sont inadaptées à la réalité des fermes, mais ne nous trompons pas de cible. La demande de la majorité des agriculteurs qui manifestent est bien celle de vivre dignement de leur métier, pas de nier les enjeux de santé et de climat ou de renier encore davantage sur les maigres droits sociaux. Ce n'est pas comme le font les dirigeants de la FNSEA, en demandant à pouvoir détruire des haies, en instrumentalisant le sujet des jachères, en éludant la question du partage équitable des terres et de l'eau, en négociant des avantages pour la production d'agrocarburants, que nous résoudrons en profondeur les problématiques de notre métier de paysan, producteur d'alimentation pour nos concitoyens. Nous lutterons sur le terrain contre toute forme de récupération de nos colères pour attiser le chaos, encourager le repli sur soi et in fine poursuivre la fuite en avant d'un système qui nous met en concurrence les uns contre les autres. Nous appelons également à des mobilisations pacifiques, respectueuses des personnes, des biens publics et exemptes de racisme, sexisme ou toute autre forme de discrimination. Ce dont nous avons besoin, c'est de s'attaquer aux racines du problème en offrant plus de protection sociale et économique aux agricultrices et agriculteurs. Instauration de prix garantis pour nos produits agricoles, mise en place de prix minimum d'entrée sur le territoire national, accompagnement économique à la transition agroécologique à la hauteur des enjeux, priorité à l'installation face à l'agrandissement, arrêt de l'artificialisation des terres agricoles, la Confédération paysanne appelant à se rassembler sur des solutions d'avenir pour transformer positivement cette colère et sortir du marasme dans lequel est plongé le monde agricole depuis trop longtemps. Alors, un peu plus loin, hein, puisqu'il faut reconstituer le fil de cette mobilisation, toujours avec la Confédération paysanne, mais il n'y aura pas que la Confédération paysanne dont je vais relayer les communiqués sur ce sujet, qui réagissait aux annonces du gouvernement. Par un communiqué du 26 janvier, nous disait que face aux difficultés exprimées par le monde agricole, les annonces du Premier ministre du 26 janvier donc sont largement insuffisantes, voire pour certaines d'entre elles totalement éloignées des réalités et de l'urgence d'agir sur le revenu paysan pour redonner des perspectives d'avenir à toutes les fermes. C'est pourquoi la mobilisation continue. Donc la Confédération paysanne juge ces mesures conjoncturelles d'urgence et d'aide à la trésorerie qui ont été annoncées pour les agriculteurs impactés par la MHE, les tempêtes, les inondations, et pour celles et ceux en agriculture biologique. Elles étaient indispensables, attendues depuis trop longtemps et revendiquées par la Confédération paysanne depuis le début des différentes crises. Parce que nos revenus ne sont pas sécurisés par une interdiction d'achat de nos produits sous nos coûts de revient, ce sont des mesures structurelles que nous attendions avec des prix minimums garantis, de la régulation des marchés, y compris en Europe, et de la maîtrise des volumes. Au-delà du respect, enfin, donc qui a été annoncé, hein, de la loi Egalim, aucune annonce donc en ce 26 janvier pour garantir des prix rémunérateurs pour les produits agricoles qui constituent pourtant l'enjeu principal. Sur le Mercosur, donc voilà, l'accord commercial international, le gouvernement français doit agir maintenant en stoppant les négociations qui sont au bord de la conclusion. Annoncer que la France ne signera pas le Mercosur ne veut rien dire. La preuve, Emmanuel Macron le répète depuis 2020, ce qui n'empêche nullement les négociations de se poursuivre en ce moment même. Pire, le Premier ministre répond à des demandes productivistes et à court terme de la FNSEA qui vont affaiblir les normes et accélérer la mise en concurrence entre paysans. Or, la préoccupation première sur le terrain est bien de vivre dignement de son métier. La surcharge administrative doit être allégée sans que cela remette en cause les normes protectrices pour la santé, les droits sociaux et la planète. Pour réussir la transition agroécologique nécessaire et inéluctable, ce dont nous avons besoin, c'est un accompagnement économique à la hauteur des besoins et des enjeux du changement climatique et de la biodiversité. Nous poursuivrons donc les mobilisations pour rassembler le plus largement possible et offrir enfin un avenir désirable, sécurisé et durable pour des paysannes et paysans nombreux et rémunérés, fiers de produire une alimentation de qualité. Alors, avec Agir pour l'environnement, cette fois-ci, dans un communiqué du 2 février, rappelle que, au Premier ministre que détruire l'environnement ne sauvera pas l'agriculture. En effet, depuis une semaine, le gouvernement multiplie les concessions démagogiques à une minorité d'activistes agricoles anti-écolos, croyant apaiser les campagnes en opposant agriculture et écologie. Cette posture est non seulement un parjure sur la forme, mais c'est également sur le fond une insulte à l'avenir de l'agriculture. Les premières annonces de Gabriel Attal vendredi 26 janvier avaient donné le la, celle du 2 février augmente les décibels. Pour le gouvernement, la seule réponse à apporter à la colère paysanne est un retour 15 ans en arrière, à l'époque sinistre où le dérèglement climatique ne préoccupait pas les acteurs économiques internationaux et où l'environnement, ça commence à bien faire. On a tous reconnu la citation d'un ancien président de la République qui avait fait le Grenelle de l'environnement et qui avait bien tourné sa veste ou était resté dans la continuité selon la manière dont on voit les choses. Voilà, donc même le peu ambitieux plan Ecophyto, hein, le plan de réduction des pesticides, est escamoté. Le délai de recours contre les projets écocides de bassines d'irrigation, ou d'agrandissement d'élevage hors sol est quant à lui réduit. Ces recours visent ni plus ni moins qu'à dire le droit, et le fait de les entraver revient à reconnaître que la plupart de ces projets sont illégaux, mais que l'État français ne souhaite plus appliquer le droit. Une décision résume clairement le choix rhétorique d'entrer dans le jeu de la coordination rurale, un syndicat agrarien d'extrême droite, celle de monter en épingle une supposée opposition caricaturale et pamphlétaire entre agriculteurs gardiens des traditions rurales et écologistes d'origine citadine. La référence à la souveraineté alimentaire est ainsi une trahison. Ce terme est devenu un sordide souverainisme alimentaire, protectionniste, xénophobe et sans cohérence avec la poursuite de la dérégulation libérale. La France a choisi d'agir à contresens de la raison, à contresens de l'histoire, à contresens de l'urgence écologique. Voilà, je me permets un petit commentaire. Dans mes vieux souvenirs, il me semble justement qu'il y avait une grande différence entre le concept de souveraineté alimentaire défendu eh bien, par les organisations paysannes telle la Confédération Paysanne ou Via Campesina, et d'autre, de l'autre côté, la sécurité alimentaire, hein, toujours cette notion d'aller chercher l'avantage comparatif, c'est-à-dire à s'approvisionner dans les pays dans lesquels le coût de la main-d'œuvre est le plus faible, hein, une logique donc libérale de sécurité alimentaire, qui s'opposait à l'époque à la souveraineté alimentaire, et bien on le voit, les temps changent. Maintenant, la souveraineté alimentaire a été récupérée par les libéraux et l'extrême droite. Et bien sûr, comme le dénonce Agir pour l'environnement, il ne s'agit pas d'une souveraineté alimentaire, mais d'un souverainisme alimentaire qui est complètement hors sujet. Voilà. Alors, pour poursuivre avec générations futures, sur la question des reculs majeurs sur les pesticides, et Générations futures dénonce des reculs majeurs qui nous ramènent à plus de 15 années en arrière sur la question. C'est d'abord la question du réexamen de l'autorisation des pesticides qui illustre ce recul. Le Premier ministre annonce qu'aucun pesticide ne pourra être interdit en France avant que la substance active qu'il contient ne soit interdite dans le cadre européen. Il s'agit là d'un recul majeur, car lorsque l'ANSES a interdit par exemple des produits à base de l'herbicide S-métolachlore avant l'Europe, il ne s'agissait nullement d'une quelconque surtransposition, puisque ce type de retrait se fait en application d'un règlement européen qui n'a pas besoin d'être transposé pour être appliqué, mais d'une application des obligations de ce règlement qui enjoint aux États de prendre toutes les mesures nécessaires lorsqu'ils constatent que des produits pesticides ne répondent pas aux exigences du règlement. Pour pouvoir faire ce qu'il annonce, Gabriel Attal devra donc demander à l'ANSES de ne pas faire son travail et donc de lui retirer la compétence pleine et entière en matière de mise sur le marché des pesticides. Il s'agit donc d'un recul énorme, d'un retour à la période antérieure à 2014, à partir de laquelle l'autorisation des pesticides a été confiée à l'ANSES, après notamment que Générations Futures ait révélé une situation scandaleuse dans laquelle le ministère de l'Agriculture avait ignoré de nombreuses mises en garde de l'ANSES sur une série de pesticides dangereux. Nous voilà donc revenus dans une ère dans laquelle le politique, sous pression de la FNSEA, décidera de maintenir sur le marché plusieurs mois ou années de plus des pesticides, alors même que l'on saura qu'ils ont des effets inacceptables pour la santé ou l'environnement. C'est totalement inacceptable, nous dit Générations Futures. Sur Ecophyto ensuite, la publication de la nouvelle version de ce plan était prévue fin janvier 2024. Le Premier ministre a annoncé qu'elle serait repoussée et surtout qu'un nouvel indicateur serait adopté pour suivre ce plan. Il s'agit là aussi d'un recul majeur, voire historique. En effet, depuis le lancement initial du plan, la FNSEA et l'industrie agrochimique ont constamment attaqué l'indicateur NODU, qui était clairement le meilleur pour suivre l'évolution de la dépendance de notre agriculture aux pesticides, car basé sur le nombre de traitements et non sur les quantités utilisées, susceptibles de varier à la baisse avec le temps sans que la dépendance aux pesticides ne baisse. Pour mémoire, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Michel Barnier, avait, lors de la construction du plan Ecophyto, défendu l'indicateur NODU, déjà attaqué à l'époque par la FNSEA et l'industrie des pesticides. Nous sommes donc là aussi sur une régression vertigineuse qui va nous ramener avant l'ère Sarkozy, c'est dire, nous dit Générations Futures. Ce recul se manifeste sur la forme également. Toutes ces mesures ont été décidées sans la moindre concertation avec les parties prenantes, comme les ONG, pourtant très investies dans Ecophyto depuis plus de 15 ans. La gouvernance à 5 du Grenelle de l'environnement est donc également jetée à la poubelle au profit d'un retour à la co-gestion des affaires agricoles entre le gouvernement et la FNSEA, comme aux plus belles heures de la présidence Chirac, dont acte. Voilà, donc effectivement, ce Grenelle de l'environnement, on s'en souvient, qui avait pour objectif de diviser par deux la quantité de pesticides. Cette quantité de pesticides en France a augmenté. Voilà, il s'agissait donc d'un effet d'annonce et il y avait ce plan Ecophyto dont l'objectif était reporté de plus en plus loin. Et bien là, on est au-delà de ça, puisqu'on a une remise en cause totale de ce plan au prix de quelques bénéfices. Alors j'en profite pour lire un entrefilet, je ne vais pas lire tout l'article, mais en tout cas, puisqu'on parle de la FNSEA, dans le dernier Canard enchaîné, un article qui s'appelle « Par ici le pactole », qui rappelle un élément intéressant. et qui dit chapeau bas au patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui, grâce à ses 700 hectares de céréales, a empoché en 2022 178 000 euros d'aide de la PAC, auxquels s'ajoutent 44 168 euros pour sa société de production d'énergie photovoltaïque. Ce gros céréalier oléoprotagineux dirige en prime le géant des huiles, qui s'appelle Avril donc, qui touche chaque année de Bruxelles, Avril, peu ou prou, 130 millions d'euros. Rappelons que 20% des agriculteurs français raflent à eux seuls 35% des 9 milliards de la PAC. Le Grisby est bien empaqueté, nous rappelle le canard enchaîné, et là, effectivement, on met le doigt sur des questions d'inégalité criantes, et sur lequel... pour laquelle la Confédération paysanne, dans une déclaration du 1er février, appelle à poursuivre la mobilisation, puisqu'il n'y a rien de concret sur le revenu, et c'est le drame de ces annonces face à une telle mobilisation. Annoncer le renforcement de la loi Egalim est une vaste fumisterie, puisque la loi a été votée depuis 6 ans, et le problème serait le manque de contrôle. Ce qu'il faut, c'est l'interdiction d'achat en dessous du prix de revient des produits agricoles, ce que ne permet pas la loi Egalim. Il n'y a pas non plus de remise en cause réelle du libre-échange, mais une énième annonce de clause miroir promise depuis des années, mais qui n'empêchera pas les ravages du libéralisme. Quant au Mercosur, le Premier ministre se contente de dire que la France ne le signera pas en l'état, alors que ce qu'il faut pour protéger les agriculteurs, français comme européens, c'est stopper les négociations en cours. Le Premier ministre ne dit rien des autres accords de libre-échange dans les tuyaux, avec la Nouvelle-Zélande, le Kenya, le Chili, et sans clause miroir. La rémunération indigne, due à un système économique libéral inégalitaire est le sujet qui mobilise sur le terrain des milliers de paysans. Or, pour détourner l'attention, le gouvernement a annoncé des reculs inadmissibles pour l'autonomie paysanne via notamment la promotion des OGM et la poursuite d'un recours massif aux pesticides et pour l'urgence écologique, s'agissant par exemple de la fuite en avant sur la politique de l'eau ou de l'insuffisance de soutien et de reconnaissance des producteurs engagés dans la transition agroécologique et l'agriculture biologique. Enfin, l'élevage a besoin de mesures structurelles fortes pour son maintien et sa valorisation. Le Premier ministre se contente d'annoncer une législation sur la dénomination de la viande de synthèse alors qu'il faut l'interdire. Nous restons mobilisés pour arracher un droit au revenu afin de maintenir des fermes et des paysans nombreux et rémunérés. Et puis plus concrètement, donc, on s'approche vraiment de ce jour avec toujours la Confédération paysanne sur la bataille pour le revenu, qui ne fait que commencer avec son communiqué du 3 février, qui revient sur les deux blocages qu'elle a effectués au péage de Saint-Quentin-Falavie en Isère et à la centrale d'achat Leclerc à Saint-Étienne-de-Montluc en Loire-Atlantique, qui ont été levés après l'intervention des forces de l'ordre au petit matin. La Confédération paysanne dénonce le choix du gouvernement de traiter différemment les mobilisations et les organisations syndicales. Les dirigeants de la FNSEA ont obtenu du gouvernement des réponses liées à leurs intérêts personnels d'agri-managers spéculateurs. On vient de le voir dans l'article du Canard enchaîné. Ces derniers ont ainsi permis au gouvernement de s'exonérer de répondre à la question centrale de cette mobilisation, c'est-à-dire le revenu. Partout où elle s'est mobilisée, la Confédération paysanne a porté la défense du revenu pour tous les paysans et pas seulement pour une fraction des jeunes nantis qui savent au quotidien que vivre de leur métier grâce à un revenu digne est urgemment nécessaire. Sur les blocages et les actions où la Confédération paysanne a été rejointe par beaucoup de paysans, souvent non syndiqués, elle a constaté à quel point cette question du revenu était centrale pour toutes et tous. La levée forcée des blocages n'arrête donc rien. La preuve, des actions perdurent et vont continuer toute la semaine en cours. Le combat ne fait que commencer. Le rapport de force se construit dans la durée avec tous les collègues pour qui ce combat est fondamental. Les dynamiques sont fortes sur le terrain et ouvrent un horizon pour l'avenir de l'agriculture et des paysans. Pour la Confédération paysanne, il n'est pas question d'abandonner la lutte légitime et indispensable du revenu paysan, voilà, qui est passé sous silence assez largement avec, bien sûr, cet arbitrage gouvernemental. Alors, pour élargir un peu le débat, je voulais faire écho d'un article de reporter du 17 janvier sur la filière bio qui nous dit « Les grosses marges des distributeurs plombent la filière bio ». et pose la question, et si les distributeurs étaient contraints d'afficher leurs marges ? C'est une des propositions de la Fondation pour la Nature et l'Homme pour sauver la filière biologique française. Et l'ONG a publié une note le 16 janvier, élaborée avec le cabinet d'études Basics. La filière biologique française traverse une crise profonde. En effet, en 2022, les surfaces en première année de conversion de l'agriculture traditionnelle vers la bio ont chuté de 40% et en 2023, les pertes économiques pour les agriculteurs bio ont été estimées entre 250 et 300 millions d'euros. Selon le baromètre des produits biologiques en France de l'agence Bio, cité dans la note de l'ONG, le principal motif avancé par les consommateurs interrogés pour expliquer leur non-consommation de produits bio est leur prix trop élevé. Or, si le prix des produits bio est en général plus élevé que celui des produits conventionnels, puisque ce mode de production nécessite plus de main-d'œuvre et peut présenter de plus faibles rendements, il s'expliquerait aussi, selon la Fondation pour la Nature et l'Homme, par des surmarges réalisées sur ces produits par les acteurs de la distribution et de la transformation. Et dans une de ces enquêtes, un reporter rappelle que l'UFC Que Choisir révélait que 46% du surcoût du bio provient en réalité des surmarges réalisées sur le bio par les grandes surfaces. Afin d'instaurer une véritable politique alimentaire pour renforcer la consommation de produits biologiques à domicile, la Fondation pour la Nature et l'Homme propose donc de rendre obligatoire la transparence de l'information de la part des acteurs de la distribution et de la transformation sur les prix et les marges réalisées sur les produits biologiques. Voilà, c'est une revendication que l'on peut soutenir. Mais bien sûr, là, on va se heurter à des intérêts économiques d'afficher clairement la rentabilité et qui, bien finalement, va soutirer le plus de profit à la vente de produits biologiques. Il est clair qu'on va se heurter à des très gros intérêts. Puis en continuité avec l'entrefilet du canard qui parlait donc du directeur de la FNSEA ou de son président, je ne sais plus, Laurie Deboeuf dans la relève et la peste du 24 janvier, donc je lis juste un extrait d'un article qui intitulé 20% des agriculteurs les plus riches reçoivent 80% des aides de la PAC et qui nous parle d'inégalité de revenus colossale. En nous disant que plutôt que de cibler les accords de libre-échange en ces temps de crise sociale agricole, la FNSEA s'en prend avant tout aux politiques européennes récemment adoptées à faveur de l'environnement, alors que ces dernières ne sont pas encore rentrées en vigueur. Ils accusent la loi sur la restauration de la nature, le Green Deal, la stratégie Farm to Fork, donc de la ferme à la fourchette, celle pour la biodiversité, la directive des émissions industrielles, alors que rien n'a commencé, aucune mesure n'a été lancée. Ce sont des projections, mais aujourd'hui, rien n'est en vigueur, donc cela n'existe pas en vérité, a réagi l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts et agriculteur Benoît Biteau auprès de La Relève et la Peste, donc le site internet. Pour autant, la réponse adaptée à la situation ne serait pas de supprimer les normes comme le réclame la FNSEA. Cette stratégie pourrait même être contre-productive, ainsi que l'explique Laurence Marandola, qui est porte-parole de la Confédération Paysanne. Moins de normes veut dire plus de libéralisation des marchés. Certaines sont carrément inadaptées et doivent être modifiées, mais les normes sont d'abord un moyen de protection face au marché et à la concurrence pour les paysans et les consommateurs. La terre, l'eau, les sols et la biodiversité, tout dont on a besoin pour continuer à produire de la nourriture à moyen terme. Pareil, sur les conditions socio-économiques, les normes sont absolument nécessaires et doivent être réciproques, s'adapter à tout le monde. Pareil, faire croire aux gens qu'avec moins de normes, on aura plus de revenus, c'est faux. La captation des revenus agricoles se fait d'abord au profit de l'agroalimentaire. En 2023, pendant que le prix des courses a augmenté de 12%, et que 18% des ménages agricoles vivaient sous le seuil de pauvreté, les marges de l'industrie agroalimentaire ont-elles explosé de 48% selon l'INSEE. D'après l'Observatoire de la formation des prix et des marges, l'OFPM, l'agriculture ne reçoit que 10% de la valeur ajoutée agroalimentaire. Les lois Egalim adoptées récemment pour protéger les rémunérations des agriculteurs n'ont servi à rien en l'absence d'une intervention directe de la puissance publique pour forcer l'industrie agroalimentaire à appliquer la loi. Et les agriculteurs le dénoncent clairement par leurs actions devant les banques, les anciennes de grande distribution ou des mastodontes de l'agro-industrie tels que Lactalis, citation, la coopérative laitière qui paye le moins bien alors que c'est le numéro un mondial de transformation de lait, précise un agriculteur. En 2021, une enquête du média indépendant Bastamag mettait en avant les différences énormes de revenus entre dirigeants des coopératives agricoles et les agriculteurs. Les premiers touchaient en moyenne plus de 16 000 euros par mois, alors que le salaire moyen des agriculteurs était de 1 730 euros par mois et même seulement 620 euros par mois pour les 20% des agriculteurs les plus pauvres. Cruauté de l'histoire, ces disparités se retrouvent entre les agriculteurs eux-mêmes à cause de la politique agricole commune et de son incitation à l'agrandissement perpétuel des fermes. Le principal sujet, c'est l'économie. 80% des aides publiques sont mobilisées par 20% des agriculteurs, ce qui crée la principale et grande disparité de revenus entre ceux qui ont des grandes surfaces et ceux qui ont des fermes familiales. L'autre grand écueil, c'est que comme il n'y a pas de conditionnalité aux aides, les gros utilisateurs de pesticides sont aussi les plus grands bénéficiaires de cette PAC, dénonce l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts et agriculteur Benoît Biteau auprès de la Relève et de la Peste. En France, la politique agricole commune représente une enveloppe budgétaire de 9 milliards d'euros par an. Avec un tel montant, elle façonne quasi entièrement le paysage agricole et alimentaire français. Supposée aider les agriculteurs, la PAC profite notamment à des géants de l'agroalimentaire dont le modèle délétère entourage l'industrialisation à outrance de l'agriculture au détriment de l'intérêt général, la dégradation des conditions de vie et la précarisation des plus petits paysans, mais aussi des nuisances majeures pour l'environnement et le bien-être animal. Dans le territoire français, 20% des plus gros agriculteurs possèdent 52% des terres agricoles et touchent 35% des aides européennes. La dernière politique agricole commune, la PAC, a été tellement vidée des aides en faveur de l'environnemental que les écologistes s'y étaient opposés, à l'inverse du RN, qui l'avait adopté à l'unanimité. En vigueur de 2023 à 2027, les États membres peuvent toujours influer sur cette politique agricole commune durant cette période. La France pourrait redistribuer complètement autrement la PAC. Les États membres ont la possibilité de plafonner les aides de la PAC. Rien n'empêche la France de plafonner les aides de la PAC à 100 000 euros par agriculteur, ce qui libérerait un volume financier énorme. Ce plafonnement n'écrêterait que les grosses structures. C'est bien la preuve que les gens qui sont à la manœuvre sont ceux qui ont intérêt à ce que ça ne change pas, accuse toujours l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts et agriculteur Benoît Biteau auprès de la Relève et la Peste. Le plafonnement des aides de la PAC a ainsi été mis en vigueur par l'Espagne. La filière bio traverse une crise majeure en France car elle n'est pas soutenue par les décisions gouvernementales. La Commission européenne a même épinglé la France à ce sujet car c'est un des seuls pays européens, voire le seul, qui soutient moins le bio que l'agro-industrie. Les agriculteurs font partie des populations en première ligne face au dérèglement climatique qui entraîne un effondrement de la productivité agricole en Europe. Transformer l'agriculture n'a jamais été aussi urgent, mais les scientifiques ne sont pas écoutés. Les méga-bassines sont une illustration supplémentaire de maladaptation et fuite en avant qui ne règle pas du tout le problème. On pourra faire autant de méga-bassines qu'on veut, on ne réglera pas le souci de la sécheresse. On doit réfléchir à une autre façon d'aménager le territoire pour ralentir l'eau, la retenir et abreuver tout le paysage. Cette maladaptation a un coût sur les 4 départements de Poitou-Charentes. 400 millions d'euros d'argent public sont investis pour seulement 6% des agriculteurs de la région. Pour Benoît Biteau, ces 400 millions pourraient accompagner la transition agroécologique de tous les agriculteurs. Un constat partagé par la Confédération paysanne qui a été récemment surprise par le nombre d'agriculteurs favorables à une transition de leurs pratiques, si et seulement si l'argent qui subventionne l'agro-industrie est réaiguillé afin de leur assurer des revenus décents. Voilà, la page agriculture a été vraiment complète, pour ne pas dire roborative, pour rester dans le domaine agricole et alimentaire. Et nous allons nous accorder une assez longue pause musicale bien méritée. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Dans mes bras, mais que longue est l'attente dans ce printemps gâché, des jours.
Terra, a vez, cara. Yeah.
Voilà, c'était Denesprit Jean qui interprétait, alors je ne vais pas le dire en breton, mais c'est La Peste des Liens sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, toujours ces musiques qui nous font aller totalement ailleurs, donc dans un album de 2022 de Denesprit Jean, Ourmor à Zaïlou. C'est pas sûr de bien prononcer le breton, mais voilà, toujours est-il que nous sommes en direct sur Radio Libertaire dans l'émission Les Mangeux de Terre, qui reprend son cours et l'examen d'un certain nombre de dossiers sur la question, les questions écologiques et sociales, avec je vous propose d'ouvrir la page énergie avec Novetic, qui revient sur Bruno Le Maire, qui reprend la main et qui devient ministre de l'énergie, puisque la grande loi de programmation énergétique et climatique attendue depuis l'été dernier se résume désormais à un texte qui parle régulation des prix, protection des consommateurs et régime des barrages hydroélectriques. Plus aucun objectif énergétique n'y est inscrit. Bercy, donc le ministère des Finances, qui a récupéré le dossier de l'énergie, assure qu'il s'agit de prendre le temps de la concertation. Au profit des énergies renouvelables, demande Novetic, rien n'est moins sûr. C'est désormais confirmé, l'énergie revient sous le giron de Bercy, donc le ministère des Finances, mettant fin au super ministère de l'écologie qui avait prévalu depuis 2007. Et comme premier acte, Bruno Le Maire a vidé de sa substance, donc la loi de souveraineté énergétique, dévoilée fin décembre et censée être présentée en Conseil des ministres début février. Selon une nouvelle version du texte qui a été consultée le 17 janvier par l'AFP, celle-ci a été amputée de son titre premier consacré à la programmation énergétique, supprimant de fait tout objectif et choix en matière énergétique et climatique. Ne reste que les volets régulation des prix, protection des consommateurs et régime des barrages hydroélectriques. Les ONG sont catastrophées par ce premier effet concret du transfert du ministère de la Transition énergétique à Bercy, a réagi auprès de l'agence Anne Bringot, qui est représentante du réseau Action Climat, également membre du Conseil national de la transition écologique qui regroupe des ONG, les syndicats, le patronat et les élus, un des organes consultatifs sur le texte. Pour elle, le gouvernement n'a plus de boussole et semble naviguer à vue sur la planification écologique et la transition énergétique. C'est un vrai recul, s'insurge également Cédric Marteau de la Ligue de protection des oiseaux, soulignant le besoin d'un large débat parlementaire sur le sujet. Le texte attendu depuis l'été dernier, conformément au Code de l'énergie, devait initialement se présenter comme une loi de programmation pluriannuelle sur l'énergie et le climat. Finalement, il ne se concentrait plus que sur le volet énergétique, avec des objectifs précis sur le nucléaire, mais pas sur les renouvelables, ce qui a provoqué une bronca des acteurs de la filière et des ONG. Désormais, la saisine rectificative au projet de loi relatif à la souveraineté énergétique, frappée de l'entête du ministère de l'Économie, ne contient plus aucun objectif. Interpellé par plusieurs journalistes, le cabinet de Bruno Le Maire explique vouloir prendre davantage de temps pour trouver le juste équilibre entre ce qui doit relever de la loi et ce qui doit plutôt s'inscrire dans la programmation sur l'énergie et le climat au niveau réglementaire. Nous avons ainsi décidé de reporter l'inscription de ce volet programmatique dans la loi. Ce temps devrait nous permettre de finaliser le travail de consultation sur notre stratégie pour l'énergie et le climat, nous précisons. Également interrogé lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, le ministre de l'Économie a assuré que son objectif était d'accélérer la transition climatique. « Ne doutez pas de ma détermination totale à accélérer les transitions climatiques dans les nouvelles fonctions qui sont les miennes et à faire en sorte que notre énergie soit l'énergie la plus décarbonée en Europe, que nous tenions nos objectifs 50% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050, avec un troisième objectif que je rajoute, une belle ambition pour la France, être la première nation industrielle décarbonée en Europe à échéance 2040, a-t-il déclaré. » Ouf, beaucoup de publicité. En plaçant le portefeuille de l'énergie sous la responsabilité du ministère de l'Économie, la stratégie du gouvernement, qui se dessine également à Bruxelles depuis plusieurs mois, est de porter la relance de l'industrie nucléaire et d'imposer une nouvelle catégorie, celle des énergies décarbonées, incluant le nucléaire et pas seulement les énergies renouvelables. Dans ce contexte, les ONG appellent à être reçues par le Premier ministre afin d'avoir des engagements sur l'accélération de la transition écologique. Christophe Béchu, maintenu au ministère de la Transition écologique, a assuré le 17 janvier sur France Inter que le sujet pouvait être partagé entre les ministères de l'Économie et de la Transition écologique. La transition énergétique, ce sont deux choses. D'une part, c'est l'efficacité énergétique et la sobriété des thématiques sur lesquelles j'aurai des occasions de m'exprimer et d'avoir des responsabilités. D'autre part, c'est la production d'énergie qui, elle, compte tenu en particulier de l'enjeu nucléaire et du soutien à la réindustrialisation, représente aujourd'hui un défi qui est économique et donc relève de Bercy à ses yeux, a déclaré Christophe Béchu, donc ministre de la Transition écologique. Les décrets d'attribution attendus dans les prochains jours devront permettre de préciser encore les périmètres de chacun. On devrait aussi y voir plus clair sur la nouvelle programmation énergétique et climatique du gouvernement Attal, avec publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie et de la stratégie nationale bas carbone, qui sont arrivées à échéance en 2023. Et cette actualisation doit se faire dans les prochaines semaines, assure-t-on au ministère des Finances de Bercy. Il y a toutefois guère de suspense sur la volonté du gouvernement, confirmée lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron le 16 janvier, de construire 14 nouveaux réacteurs nucléaires. Voilà, on a parlé il y a un mois de l'aberration de ce développement du nucléaire, donc je ne vais pas y revenir, je vous renvoie à l'émission du 1er janvier, dans laquelle nous avons rappelé notamment que bien, la part de production de l'électricité grâce au nucléaire est en baisse constante partout dans le monde et également en France. Et que donc représente une part infime et que ce n'est certainement pas une énergie d'avenir. Alors, du côté des meilleures nouvelles, on va dire, c'est Novetic, toujours, qui, le 19 janvier, publie, enfin, rappelle les chiffres, en tout cas, très encourageants, puisque le monde a installé 50% de capacités renouvelables en plus en 2023 par rapport à 2022, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié le 11 janvier. Au total, plus de 500 gigawatts ont été mis en service. Les trois quarts de ces installations nouvelles ont eu lieu dans le domaine du solaire photovoltaïque et la Chine n'y est pas pour rien dans cette croissance des énergies renouvelables en étant cette année le grand moteur avec notamment plus 66% d'éoliennes en un an. Mais l'Europe, les États-Unis et le Brésil ont également atteint des niveaux inédits. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie anticipe pour les 5 ans à venir la plus forte croissance des énergies renouvelables jamais vue en 30 ans. Ce rythme reste toutefois insuffisant face à l'ampleur du défi qui nous attend. Alors, par rapport à cette phrase, il est clair que le défi qui nous attend, également dans une perspective aussi de niveau de consommation d'énergie, mais bien sûr dans une perspective de décroissance et de mise en œuvre de la sobriété, mais une mise en œuvre structurelle et non pas reposant sur la seule volonté et le sacrifice des individus. Bien sûr, c'est ça le vrai levier et c'est totalement incompatible avec la logique du profit, du capital, bien sûr. Vaste sujet, je ne vais pas m'étendre pour dire avec Actu Environnement, refaire le point, alors plutôt en France, si je ne me trompe pas, c'est ça, sur les énergies renouvelables électriques. Et Actu Environnement, dans un article du 26 janvier, nous dit que le solaire accélère, mais pas l'éolien. Le photovoltaïque est le moteur de la filière électrique renouvelable ces dernières années, ce qui est souligné par Frédéric Tuillier, qui est responsable des études Observer lors de la présentation du baromètre 2023 des énergies électriques renouvelables, publié le 25 janvier par Observer, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et l'ADEME. Donc en 2023, 4,5 gigawatts supplémentaires ont été raccordés, dont près de 3 gigawatts de solaire. L'autoconsommation individuelle connaît notamment un développement historique et représente désormais 48% des installations. Ce changement de dynamique dans le photovoltaïque entamé en 2021 permet simplement de raccrocher les wagons des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie à 2028, tout en restant cependant dans la fourchette basse. D'autant que ces ambitions devraient être rehaussées pour atteindre 40%, les ambitions globales, pour atteindre 40% d'énergie renouvelable dans la consommation électrique en 2030. Le projet de programmation de l'énergie en consultation prévoit une accélération sur le solaire avant 2030 pour atteindre entre 54 et 60 gigawatts installés à cette échéance, contre seulement 20 gigawatts estimés fin 2023. En revanche, l'éolien terrestre reste à la traîne et en deçà du seuil de 1,5 gigawatts supplémentaires par an, avec seulement entre 1,2 et 1,3 gigawatts estimés fin 2023. Donc on voit, hein, on est, par rapport à l'article précédent, on est dans une tendance bien inverse finalement à celle de la tendance mondiale. Résultat, donc en France, hein, l'objectif de programmation pluriannuelle de l'énergie pour 2023 n'a pas été atteint, avec seulement 22 gigawatts installés contre 24 attendus, et celui de 2028 ne le sera certainement pas si on conserve ce rythme. Des attentes fortes pèsent sur les travaux menés actuellement par les collectivités sur les zones d'accélération. L'éolien en mer est quant à lui confronté à une lenteur de développement, même si plusieurs parcs sont actuellement en construction. Si la dynamique de l'ensemble des filières renouvelables électriques a affiché en 2022 et 2023 un meilleur rythme qu'au tournant des années 2020, le pays n'en reste toujours pas moins en retard sur ses objectifs, conclut le document. Alors, avec Novetic, je voulais me faire l'écho d'un livre qui enflamme un peu le débat. Sur la transition énergétique n'aura pas lieu, le livre de Jean-Baptiste Fressoz, que je n'ai pas lu, je précise, mais en tout cas dont les thématiques et la thèse m'est assez connue. Ce livre d'histoire donc de l'énergie, l'histoire de l'énergie, rencontre un grand écho médiatique et dans son dernier essai, Jean-Baptiste Fressoz s'emploie à démontrer que la transition énergétique prônée depuis les années 70 n'a pas eu lieu et ne se produira pas dans les temps pour répondre à l'urgence climatique. Alors pour quelle raison? Parce qu'au lieu de se substituer les unes aux autres au fil du temps, les énergies se sont empilées, portées par une consommation toujours plus importante. Ce à quoi ses défenseurs répondent que tout peut arriver et que le défaitisme ne mène à rien. Ben oui, c'est sûr qu'il faut positiver, nous fonçons droit dans le mur, mais on trouve des moyens de se réjouir. La transition énergétique n'aura pas lieu. Le bandeau du nouvel essai de l'historien des sciences, des techniques et de l'environnement français Jean-Baptiste Fressoz a de quoi susciter à minima la curiosité, voire l'indignation pour ceux qui défendent et travaillent à la mise en œuvre de cette transition énergétique indispensable à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. D'ici 2050, à savoir l'objectif de l'accord de Paris, non, la transition n'aura effectivement pas lieu. Et ce n'est absolument pas surprenant. Il suffit de regarder les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie et de celle des États-Unis. Cela veut dire qu'il faut se secouer, installer des renouvelables certes, mais aussi parler de décroissance pour tout ce qu'on ne saura pas décarboner, explique le principal intéressé qui a été rencontré donc par Novetic dans son appartement parisien. Le propos de son livre, un livre d'histoire, tient-il à préciser, est d'apporter un éclairage différent sur l'histoire de l'énergie, la première histoire de la transition énergétique. De fait, la transition énergétique contemporaine n'occupe qu'une faible place sur les 400 pages consacrées à démontrer comment les énergies dites du passé, c'est-à-dire le bois, le charbon, le pétrole et le gaz, se sont empilées, superposées les unes sur les autres, contrairement à ce que prône le discours dominant qui propose une histoire linéaire et phasiste de la transition selon laquelle une énergie remplacerait une autre. Jean-Baptiste Fressoz prend l'exemple du charbon. Ce n'est pas du tout une énergie du passé qui aurait été remplacée par le pétrole. Le charbon a explosé au XXe siècle. C'est une technologie très moderne et encore en 2023, nous avons battu un record de consommation au niveau mondial, détaille-t-il. Il n'y a jamais eu de transition énergétique à l'échelle mondiale et je doute qu'on y parvienne d'ici 2050. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais on assiste tout au plus à une baisse de l'intensité carbone de l'économie liée à l'électrification depuis les années 90, poursuit-il. Une dizaine de jours après la sortie de son livre, un collectif de chercheurs dont les économistes Anna Créti et Emmanuel H. et le politiste François Gémen se sont fendus d'une tribune dans Le Monde pour dénoncer ses propos. Ce déclinisme écologique est non seulement grandement infondé, mais également de nature à plomber les ambitions dans la lutte contre le changement climatique. Affirmer que la transition est impossible, c'est le meilleur moyen de ne jamais l'engager. À rebours de ce défaitisme, nous voulons ici affirmer avec force qu'il est possible de réussir cette transition, écrivent-ils. Il n'y a pas de transition énergétique, mais des transitions partielles, par exemple en France, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni, décrypte pour Novetic Cédric Philibert, chercheur spécialiste des énergies renouvelables. La transition est difficile, elle aurait dû se faire plus vite, mais elle est en marche. Il faut aussi prendre en compte que par le passé, nous avons assisté à une croissance économique et démographique considérable, mais cela aussi change. Nous sommes dans une transition démographique et le rythme de la croissance économique ralentit, explique-t-il. L'Agence internationale de l'énergie entrevoit ainsi pour la première fois un pic de la demande pour l'ensemble des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, dans les prochaines années de la décennie et plus tôt que prévu. Toujours selon l'Agence internationale de l'énergie, les énergies renouvelables devraient également détrôner en 2025 le charbon comme première source de production d'électricité mondiale. Solaire en tête, elle devrait générer plus du tiers de l'électricité, passant de 30% du total en 2023 à 37% en 2026. Décarboner l'électricité n'est que la première étape la plus facile de la transition énergétique, mais quid de la décarbonation de l'aviation, du transport maritime, de la production d'acier, de ciment, d'engrais, de plastique, interroge Jean-Baptiste Fressoze. Se focaliser sur la transition énergétique permet de continuer comme avant, sans se poser les questions qui fâchent, réfléchir aux choses qu'il faudra abandonner, ce qui émet du CO2 sans augmenter le bien-être, par exemple. En ce sens, la décroissance est complètement sous-équipée intellectuellement, déplore-t-il. Les discours autour de la sobriété, la décroissance, le changement de notre mode de vie et de production peinent en effet à se frayer une place. Ils sont souvent limités à l'efficacité énergétique ou aux éco-gestes. Dans son dernier rapport, le GIEC y a tout de même consacré un chapitre. L'ADEME ou encore RTE, le réseau de transport de l'électricité ou l'énergie, je ne sais plus, du réseau d'électricité, ça y est, ont également élaboré des scénarios sobriété incluant une réduction de nos consommations, de nos déplacements ou encore l'adoption d'un régime alimentaire moins carné. Mais le grand débat sur la société bas carbone que l'on souhaite pour demain n'a pas encore été programmé. En attendant, à qui des optimistes ou des combatifs, comme se décrit Jean-Baptiste Fressoze, prêter l'oreille? Eh bien, c'est clair, hein, ce débat-là, on le connaît depuis assez longtemps et je le rappelle souvent, le schéma des trois pistes donné par le scénario Négawatt, avec bien premièrement l'augmentation de la performance des moteurs, voilà les progrès technologiques, deuxièmement le développement des renouvelables, et troisièmement la sobriété, eh bien c'est tout à fait l'ordre de priorité dans lequel se trouvent tous les tenants du système capitaliste. C'est bien sûr nous faire croire que on va repeindre en vert et trouver une solution miracle, et certainement pas s'interroger sur le grand gaspillage de nos sociétés, un gaspillage organisé par un système de production à la main des actionnaires, à la main des grands capitalistes qui bien cherchent à faire du profit avant toute chose et qui ne cherchent pas à répondre aux besoins de la population tout en s'inscrivant dans les limites de la planète, voilà, toujours plus. Et bien sûr, c'est pour ça que ces réflexions sur l'usage, la finalité de la production passent complètement au travers. Et bien c'est pour ça qu'on en est là. Et le débat, effectivement, sur la décroissance, sur le changement d'orientation de l'économie, la reprise en main, notamment par les producteurs eux-mêmes, voilà, qui, avec bien les consommateurs, détiennent finalement l'intelligence des territoires, l'intelligence des situations, et certainement pas les financiers. C'est là que se trouvent les germes d'un changement d'échelle qui est absolument nécessaire, et il est clair que l'évolution actuelle ne fait qu'empiler finalement les solutions énergétiques et ne répond pas aux problématiques de diminution de la consommation d'énergie globale. Allez, revenons sur un sujet plus terre à terre, sur les logements rénovés grâce à MaPrimeRénov'. Avec bien une information prise sur Actu Environnement, donc du 25 janvier, qui nous dit qu'en 2023, l'aide MaPrimeRénov', qui est versée par l'Agence nationale de l'habitat, ANA, aux propriétaires, a permis au total la rénovation énergétique de 570 000 logements, ce qui est 15% de moins qu'en 2022, où on avait atteint 670 000. En revanche, parmi ces chantiers qui incluent des monogestes de travaux, donc sur le chauffage et l'isolation, le nombre de rénovations globales a progressé de 12,5% avec plus de 70 000 rénovations contre 66 000 en 2022, dont 30 000 réalisées en copropriété. Mais dans ce contexte, l'objectif pour 2024 de 200 000 rénovations d'ampleur et 500 000 logements décarbonés financés par le dispositif semble très ambitieux. Effectivement, on l'avait largement évoqué, hein, avec le rapport de la Cour des comptes. On a là un mésusage de l'argent public qui a servi à faire beaucoup de publicité sur le nombre effectivement de dossiers de financement avec MaPrimeRénov', mais qui n'a pesé que trop spécifiquement sur des monogestes, c'est-à-dire des changements notamment de mode de chauffage avec les fameuses pompes à chaleur. Mais qui globalement n'a pas pesé sur l'économie générale et le changement, l'amélioration des classes de consommation énergétique. On a cité le mois dernier le fait que en améliorant le confort, on a une forme d'effet rebond, c'est-à-dire que comme ça coûte moins cher, ça, on consomme moins, on chauffe à 0,5 degré de plus, voire à 1 degré de plus. Donc voilà, on est toujours, atteindre une solution, mais on ne s'interroge pas sur la finalité des usages et les moyens ne sont pas mis, même de l'argent est gaspillé, on peut le dire, par des petits coups de pinceau qui ne résolvent pas le problème global. Et puis je voulais citer aussi avec Actu Environnement, donc une petite phrase de Joe Biden, président des États-Unis, qui a dit le 29 janvier « Mon administration va mettre en pause toute autorisation d'exportation de gaz naturel liquéfié ». Et cela, il l'a dit en réponse aux nombreuses protestations écologistes survenues après l'autorisation de projets pétrogaziers en Alaska. Donc Joe Biden a décidé d'un moratoire sur les nouvelles exportations de gaz naturel liquéfié, majoritairement issu du gaz de schiste, jusqu'à l'élection présidentielle de novembre. Durant cette pause, mon administration va évaluer les impacts de nos exportations sur les prix de l'énergie, notre souveraineté énergétique et l'environnement, a résumé le locataire de la Maison Blanche le 26 janvier. Cette décision impacte au moins 4 projets d'exportation et un projet de terminal méthanier qui se trouve en Louisiane. Ce virage de l'administration Biden interroge sur les choix stratégiques de la France qui ne cesse de vanter le gaz comme une énergie de transition et qui a décidé de miser sur le gaz naturel liquéfié américain à la suite de la guerre en Ukraine, commente l'ONG Greenpeace France. Greenpeace rappelle qu'en 2023, 49% du gaz importé par la France, soit 28 milliards de mètres cubes, la majorité du gaz consommé, provient des États-Unis et donc très largement du gaz naturel liquéfié, très peu réputé pour son manque d'impact environnemental, au contraire, avec un très fort impact. Donc on le voit, l'indépendance énergétique française se fait à grand renfort de pollution. Et puis, pour terminer cette page très longue sur l'énergie, le réseau Sortir du nucléaire, qui évidemment, dans un communiqué du 19 janvier, revient sur la consultation sur la prolongation des réacteurs de 1300 MW, puisque le jeudi 18 janvier, le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, tout un programme, a lancé une concertation publique sur la prolongation des réacteurs de plus de 1300 MW au-delà de 40 ans. L'objectif d'informer le public et de lui demander son avis est louable, mais le réseau Sortir du nucléaire dénonce vivement le fait même d'envisager la prolongation de ces réacteurs, qui présentent déjà des dysfonctionnements qui vont s'accentuer avec le temps. Cette prolongation est au cœur de la stratégie énergétique du gouvernement depuis le discours de Belfort d'Emmanuel Macron du 10 février 2022. Le 13 juin 2023, l'autorité de sûreté du nucléaire a émis un avis très critique à ce sujet, et notamment en ce qui concerne les réacteurs de 1300 MW. Leurs enceintes à double paroi présentent des taux de fuite élevés. L'ASN estime ne pas disposer des justifications associées aux propos d'EDF, estimant que les mesures mises en œuvre pour prolonger la durée de vie des réacteurs de 900 MW puissent justifier la prolongation de ceux de 1300 MW. Le gouvernement souhaite par ailleurs augmenter la production des réacteurs nucléaires pour atteindre 400 TWh, alors même que cette production, et on en a parlé sur cette antenne, ne fait que décroître depuis 2005 et que ce phénomène risque bien de continuer. Ça aurait pour conséquence d'augmenter la sollicitation de certaines pièces, dont certaines sont déjà sous tension, selon l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire, notamment du fait d'un vieillissement accéléré. En ce qui concerne des portions de tuyauterie du circuit primaire, elle estime ainsi que la démonstration du caractère suffisant des pistes d'action présentées par EDF n'est pas acquise à ce stade, dans la perspective de la poursuite du fonctionnement de certains réacteurs au-delà de leur cinquième visite décennale. Rappelons également que certaines pièces, dont la cuve du réacteur, ne sont pas remplaçables. Ces cuves ont initialement été conçues pour durer 40 ans. De plus, elles sont soumises au principe d'exclusion de rupture, c'est-à-dire que les exigences au moment des procédures de conception et de fabrication étaient telles qu'elles n'étaient pas censées pouvoir rompre, et ces exigences n'ont toujours pas été respectées. Le gouvernement a voté l'accélération des procédures administratives avec la loi d'accélération en juin 2023. Il pousse pour que soient également accélérées les procédures de contrôle de la sûreté avec la loi prévoyant la fusion de l'ASN et de l'IRSN. On en avait parlé dans ce contexte. Le réseau Sortir du nucléaire dénonce le fait que cette prolongation de l'ensemble du parc nucléaire risque de se faire au détriment de la sûreté des citoyens qui est déjà malmenée, et au vu de la manière dont leur avis est pris en compte, leur consultation risque malheureusement de ne rien changer. Toujours du côté du nucléaire, le chiffre du jour avec Actu Environnement du 24 janvier qui nous dit qu'EDF vient d'annoncer que la facture des deux EPR d'Hinkley Point au Royaume-Uni devrait atteindre entre 31 et 34 milliards de livres sterling, donc entre 36 et 40 milliards d'euros, dans les deux scénarios les plus favorables. Et il faut rappeler que l'évaluation initiale portait sur un coût annoncé de 18 milliards de livres. Donc on a quasiment doublé depuis 2018 le coût finalement de la production de ces deux réacteurs EPR. Et le délai de mise en service est passé de juin 2027, qui était une prévision de mai 2022, à 2029 dans le meilleur des cas, ou 2030. Pour le nouveau scénario de référence. Et puis pour terminer sur la page du nucléaire, avec Reporter, un article du 24 janvier qui nous dit que le prix de l'uranium s'envole et que le cours de ce combustible a atteint près de 86 $ la livre, c'est-à-dire 450 grammes, en décembre 2023, son plus haut niveau depuis 2007, selon France Info, qui l'a communiqué le 23 janvier. En cause des difficultés d'approvisionnement et un intérêt international accru pour le nucléaire, pour la transition énergétique. Côté demande, une centaine de réacteurs nucléaires sont en projet ou en construction dans le monde. Royaume-Uni, France, Égypte, en Chine, la Suède a ainsi abrogé une loi interdisant la construction de toute nouvelle centrale nucléaire. Lors de la COP28, une vingtaine de pays menés par la France ont ainsi appelé à tripler la capacité nucléaire dans le monde d'ici 2050. Alors là, je précise tout de suite, hein, on a vu que c'était totalement impossible, mais voilà, l'espoir fait vivre. Je poursuis. D'autres pays comme la Belgique et les États-Unis ont choisi de prolonger leurs réacteurs. La Suisse se prépare aussi à cette possibilité. Cet engouement est toutefois relativisé. On en avait parlé. L'atome ne pesait que 9,2% dans le mix électrique mondial en 2022, son plus bas niveau depuis 40 ans. Hein, quand on dit qu'on nous raconte des salades sur le nucléaire, c'est absolument clair dès qu'on regarde un peu les chiffres. Quant à l'approvisionnement en uranium, il se fait plus incertain. Le Niger a connu un coup d'État l'été dernier qui a obligé le groupe français Orano à stopper son usine d'uranium installée dans le pays. La Russie est devenue un partenaire commercial embarrassant depuis son invasion de l'Ukraine. Le Canada et le Kazakhstan, deux autres grands pays producteurs, rencontrent des problèmes d'extraction. Et pour pallier ces difficultés, la France a annoncé un projet déjà controversé de nouvelles mines en Mongolie. Cette hausse du cours est renforcée par les achats spéculatifs de certains investisseurs, selon France Info. Elle est cependant pas responsable de la flambée des factures d'électricité, le combustible ne représentant que 5 à 10% du coût de production de l'électricité nucléaire. Voilà, on s'accorde une dernière pause musicale et ensuite on revient pour les 10 dernières minutes de l'émission. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
And do it.
Voilà, c'était Mougar qui nous interprétait Ascendu. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. Et pour la dizaine de minutes qui nous reste, je voulais revenir sur l'information, alors sur le sujet des transports, pour dire que, avec Reporter, donc un article du 2 février, que dans son bilan annuel provisoire qui est sorti jeudi dernier, 1er février, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière a dressé un constat réjouissant. Alors, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. En tout cas, la pratique cycliste a connu une augmentation de 5% entre 2022 et 2023. Et que mieux encore, la mortalité sur la route est en nette baisse. La hausse de la pratique du vélo, constatée notamment dans les villes, s'observe aussi bien dans les déplacements du quotidien que le tourisme et les trajets domicile-travail. Et l'Union fait la force, seule 226 personnes sont mortes à vélo en 2023, un chiffre toujours trop important, mais en baisse de 8% par rapport à l'année précédente. Pour l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, la sécurité par le nombre observée aux Pays-Bas se démontre désormais en France. Plus il y a de cyclistes sur un même territoire, moins le risque individuel d'avoir un accident est grand. Et effectivement, j'ai souvenir de rappeler d'une étude, il me semble, suisse, qui le démontrait, que il y avait un effet de seuil, c'est-à-dire une fois que le mode de déplacement à deux roues non motorisées prend une ampleur et prend une place surtout sur les infrastructures suffisamment importantes, et bien de fait, de facto, le risque tend à diminuer. Donc voilà, plus on fait de vélo, plus il y a de vélos en circulation, plus le risque baisse. En tout cas, ces chiffres confortent ce qu'on savait déjà. Alors, l'organisme décrit que les cyclistes sont ainsi plus visibles et prévisibles pour les autres usagers, c'est voilà ce que je viens de dire, mais en mieux formulé. De la même manière, la croissance de la pratique incite les collectivités à mettre en place des infrastructures adaptées et des mesures pour apaiser le trafic. Les collectivités locales ayant mis la priorité sur la création de pistes cyclables et sécurisées, telles que Paris, seraient logiquement celles qui s'en sortent le mieux. La bonne nouvelle reste à relativiser car les décès de cyclistes ont augmenté de près de 38% entre 2019 et 2022, au moment du boom du vélo post-Covid, avant que les infrastructures ne suivent la hausse de la pratique. Le rapport invite les pouvoirs publics à poursuivre et renforcer leurs efforts. La première des batailles consiste à construire des trajets sécurisés de but en bout où les cyclistes ne risquent pas d'être mis en danger par des automobilistes. Le deuxième objectif consiste à mieux enseigner les règles de partage de la route et les évolutions du code de la route. Les automobilistes tuent 3 fois plus de personnes par kilomètre parcouru que les cyclistes. Voilà, après, sur ces revendications, la revendication en tout cas de la piste cyclable séparée de la chaussée, je pense que le gain, déjà, il faut que ça soit possible au niveau de la place. Mais bien sûr, l'enjeu est d'apaiser les circulations et les vitesses surtout. Hein, on se rappelle tous de la démonstration selon laquelle en ville, si on compte les arrêts au feu, au stop et le temps de se garer, eh bien la vitesse réelle d'un véhicule n'est pas beaucoup plus supérieure à celle d'un bus ou d'un vélo, 20 km/h. Donc, pourquoi autoriser des 50 km/h ? Voilà, en tout cas, l'enjeu, me semble-t-il, est beaucoup plus fort sur des limitations de la vitesse et des aménagements de voirie pour diminuer justement cette vitesse. Il est aussi lié à l'éducation, bien sûr, l'éducation à la non-violence, ça en fait partie. Voilà, en tout cas, l'idée qu'il faut des pistes cyclables et sinon, tant qu'on les a pas, on ne pourra pas progresser, je m'inscris en faux contre cette idée. Peut-être un écho aussi sur ce qui se passe actuellement avec Marc Lémé sur le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui nous rappelle dans une communication du 21 janvier qu'à la fin c'est toujours Veolia qui gagne. En effet, dans l'invraisemblable saga du renouvellement du contrat de concession du plus grand syndicat d'eau français, il y a une singulière accélération au début du mois et Veolia qui détient le contrat depuis 1923 l'a vu renouveler le 25 janvier. On se souviendra pour mémoire des épisodes précédents, d'abord d'un mystérieux fric-frac qui aura vu Veolia récupérer l'offre de Suez au cours de l'appel d'offres via une petite main de l'assistance à maîtrise d'ouvrage du CEDIF. Puis le pataquès de l'OIBP, donc l'osmose inversée basse pression, donc c'est le fait de, si je le dis de manière caricaturale, c'est le fait de dépolluer l'eau en la filtrant à travers une membrane extrêmement avec des percées de trous extrêmement fins, microscopiques. Donc cette solution miracle de Veolia et du CEDIF pour potabiliser l'eau plus blanc que blanc, nous dit Marc Lémé, façon maire de Nice, un temps entravé par l'irruption de la Commission nationale du débat public en février 2023. En effet, les 5 et 10 janvier, cette commission a notifié au CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, après s'être montrée insatisfaite des explications apportées sur l'osmose inversée basse pression, de suspendre la désignation du futur attributaire du contrat le temps que de nouvelles études éclairent les problématiques environnementales soulevées par cette technique. Alors si on cite l'avis, donc ça date du 5 et 10 janvier de cette année, la CNDP, Commission nationale du débat public, nous dit que les diverses études annoncées elle demande à ce qu'elle soit mise en œuvre au plus tôt et avant que la procédure du choix du futur délégataire du projet d'amélioration de la qualité des eaux du CEDIF n'aboutisse, afin que les données de ses études puissent être prises en compte par le futur nouveau délégataire. À date, l'État, qui devait lui aussi répondre aux observations de la Commission, n'en a rien fait. Or, début janvier, le syndicat des eaux d'Île-de-France décide de toute attraque de désigner son futur concessionnaire dès le 25 janvier, au lieu du mois de juin 2024, comme prévu initialement. Colossale finesse, nous dit Marc Lémé, saisi par Suez d'un recours, le Conseil d'État doit rendre son avis le 29 janvier. Le 12 janvier, BlackRock finalise pour un montant de 12,5 milliards d'euros le rachat de GIP, un autre fonds des États-Unis, et met alors la main sur 39% des actions détenues aux côtés de Meridiam, de la Caisse des dépôts et de CNP par GIP dans le capital du nouveau Suez, donc Veolia, depuis l'OPA de Veolia qui l'a dépouillé avec la bienveillance du gouvernement Macron de l'essentiel de ses actifs, notamment aux États-Unis. BlackRock est le géant américain des fonds d'investissement qui approche des 10 000 milliards d'actifs sous gestion, ce qui représente près de 10% de la capitalisation boursière mondiale. Son patron Larry Fink est reçu chaque année à Versailles en grand arroi, donc avec un grand équipage, par Emmanuel Macron, qui incite la galaxie de la finance à investir en France. Pour qui vante Urbi et Torbi le réarmement national, la figure de Pinocchio s'impose irrésistiblement. Suez vendu au fonds de pension états-unien pour le plus grand profit de Veolia, donateur assumé de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, puis rédacteur officieux du plan eau du même en 2023. Elle est pas belle la vie, conclut Marc Lémé. Voilà, et puis pour terminer, toujours Marc Lémé qui revient sur l'étude parue dans une revue américaine selon laquelle la pollution aux nanoparticules dans l'eau en bouteille est 100 fois plus élevée que l'on estimait auparavant. En utilisant une technique novatrice, les scientifiques ont comptabilisé en moyenne 240 000 fragments de plastique détectables par litre d'eau après avoir testé le produit de plusieurs marques populaires. Cette étude publiée dans la revue PNAS soulève des questions sur les conséquences potentielles pour la santé. Si les gens sont inquiets à propos des nanoplastiques dans l'eau en bouteille, il est raisonnable de considérer des alternatives comme l'eau du robinet, a dit Beizan Yan, co-auteur de l'étude. Mais il a ajouté, nous ne recommandons pas de ne pas boire d'eau en bouteille quand c'est nécessaire, car le risque de déshydratation peut être plus grand que les conséquences potentielles de l'exposition aux nanoplastiques. Les nanoplastiques attirent de plus en plus l'attention ces dernières années, sont présents partout sur la planète. Ils font moins de 5000 micromètres, donc 5 mm, tandis que les nanoplastiques font eux moins d'un micromètre. Ils sont si petits qu'ils peuvent rentrer dans le système sanguin et donc jusque dans les organes, dont le cerveau et le cœur. Les recherches sur leurs conséquences sur les écosystèmes et la santé humaine sont encore limitées. Mais certaines études ont déjà mis en évidence des effets néfastes, par exemple sur le système reproductif. Pour leur étude, les chercheurs ont eu recours à une toute nouvelle technique utilisant des lasers. Ils ont testé trois marques d'eau sans révéler leur nom. Nous pensons que toutes les eaux en bouteille contiennent des nanoplastiques, donc en mettre certaines en évidence pourrait être considéré comme injuste, a expliqué l'auteur de l'étude. Les résultats ont montré que chaque litre contient entre 110 et 370 000 particules par litre, dont 90% de nanoplastiques, le reste étant des microplastiques. Le type le plus communément retrouvé était le nylon, provenant probablement de filtres en plastique utilisés pour purifier l'eau, suivi du PET, pour polytéréphtalathéthylène, dont les bouteilles sont faites. Les chercheurs espèrent à l'avenir tester l'eau du robinet, qui contient elle aussi des microplastiques, mais a priori en moindre quantité. Voilà, mais on termine sur cette information. On se retrouve pour la prochaine émission le premier lundi du mois de mars à 18h, comme d'habitude. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire sur la plus rebelle des radios, 89,4 MHz.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches. Et le plus souvent, lundi sera dimanche, mais notre âge alors.
pesées comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours. Finiront par je t'aime.
Avril est de retour, la première des roses de ses lèvres mi-closes rit au premier bonjour. La terre bienheureuse s'ouvre et s'épanouit, tout aime, tout jouit. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Les buveurs en gaieté, dans leurs chansons vermeilles, célèbrent sous les treilles le vin et la beauté.
Où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation, animée en direct sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
L'édito du lundi 5 février 2024 du Monde Merveilleux du Travail, le syndicalisme dans le secteur du commerce. À l'instar des secteurs du bâtiment et de la restauration, le commerce est constitué d'une multitude de prolos de nationalités diverses, dont les origines, les disputes aux cultures locales et aux philosophies diverses. Quand je dis philosophie, il faut plutôt entendre théologie, plus sûrement religion. Dans ce marais de croyances et de superstitions, où exilés économiques et réfugiés de guerre se comprennent dans un sabir pratico-pratique professionnel, y a-t-il encore de la place pour la propagande révolutionnaire de classe et internationaliste ? Nous tenterons de présenter un état et des pistes de syndicalisation et des chiffres. Je veux des chiffres ! Donc ce soir, échange libre et retour d'expérience de nos années de syndicalisme dans un secteur où la concurrence, la compétitivité, la vénalité et l'esprit boutiquier entrent en dissonance cognitive avec avec les bonnes conditions de travail, les améliorations de salaire et la solidarité professionnelle. Mais tout de suite, dans le monde merveilleux du travail, nous retrouvons Papy Colère, toujours haineux, toujours acerbe dans sa chronique « Les pensées du Mercator ».
Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagor, hurrah. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé ?
Ah ouais, patron, fais-nous plaisir et ferme ta gueule.
FNSEA, yabasta. Eh oui, c'était le titre de la chronique que j'avais prévu pour la dernière émission. Mais qu'à ça ne tienne, le sujet brûlant, le sujet brûle, un peu comme les préfectures des provinces. Voilà, et le feu ne